Voilà, en fait, je travaille au GRAC, donc c'est l'association de cyclistes quotidiens. On est actif en Wallonie et à Bruxelles. Donc nous, on se préoccupe principalement de déplacements à vélo. Donc on n'est pas des cyclistes sportifs, on n'est pas des Hollandais qui font du vélo dans la boue. Donc voilà, c'est vraiment clairement les déplacements qui nous concernent le plus. Et alors, en fait, l'originalité du GRAC, c'est qu'on n'est pas un bureau d'études. Nous, on fonctionne avec des bénévoles. On a des groupes actifs en Wallonie, sur une soixantaine de communes. On a des groupes aussi actifs à Bruxelles. Et donc, c'est principalement des bénévoles qui sont en discussion avec leur commune, avec la province parfois, avec l'office du tourisme, pour essayer d'avoir des aménagements cyclables. Et alors, il y a deux, trois permanents qui encadrent effectivement ces bénévoles, parce qu'il faut effectivement de l'expertise au niveau des aménagements. Il faut pouvoir animer un groupe, voire faire du suivi quand le groupe disparaît, tout ça. Donc voilà. L'originalité du GRAC, c'est qu'on n'est pas un bureau d'études, mais qu'on a quand même un avis, parce que nous sommes les usagers qui sommes sur les aménagements qui sont dessinés par l'autre. Alors, pourquoi est-ce qu'on se fatiguerait en fait à faire des aménagements cyclables en Wallonie, puisque, paraît-il, moins de 2% des Wallons font du vélo au quotidien? Alors, c'est vrai que si on prend effectivement le dernier sondage qu'on a, où on a un peu de chiffres en Wallonie, hein, mais ceci est un sondage de 2013, il y a déjà 4 ans, on avait posé la question à des Wallons de savoir combien de fois par an ils utilisaient leur vélo pour se déplacer. Et donc, on avait ici un camembert où on voit en rouge les gens qui n'ont pas de vélo, les gens en orange qui ont un vélo mais qui ne l'utilisent pas pour se déplacer, c'est-à-dire qu'ils font principalement des balades avec, ou bien le vélo dehors dans la cave, ce qui arrive souvent. Et puis en vert, vous avez les gens qui l'utilisent au moins une fois par an pour se déplacer. Donc on a quand même 25%, un Wallon sur 4, qui au moins une fois par an va soit chercher son pain, soit va voir quelqu'un, soit va au cinéma, pas nécessairement travailler tous les jours, mais en tout cas, il y a une certaine demande, l'attente d'un quart de la population pour des déplacements à vélo. Même si c'est vrai que la tranche en vert foncé, des gens qui font ça quasiment tous les jours, n'est que de 2% pour l'instant. Donc voilà. On ne travaille pas pour une frange marginale de la population, parfois le rappeler. Alors, après, l'urbanisme vélo pour les entreprises, est-ce que c'est utile, puisque les employés sont de toute façon en voiture et que leur rêve, c'est d'avoir une voiture de société et pas du tout d'aller travailler à vélo? Bien, quand on regarde dans les news récemment, on voit ceci. Amazon, qui a son siège à Seattle, est dans la recherche aux États-Unis d'un deuxième quartier général. Et dans le cahier des charges, en fait, d'Amazon, Amazon demande des accès en transport en commun et à vélo. Donc, quelque part, il y a un petit changement de mentalité qui se fait au niveau des entreprises. C'est que Amazon a remarqué, comme beaucoup d'entreprises, que les gens qui arrivaient à vélo le matin étaient particulièrement bien réveillés, particulièrement aussi dynamiques de la journée, et étaient moins souvent malades que la moyenne en général. Et donc, effectivement, il y a une demande, en fait, maintenant des entreprises. Je ne pense pas qu'en Wallonie, il y en a encore beaucoup d'entreprises qui l'ont demandé officiellement au SPOE. Mais en tout cas, on a un projet dans les entreprises en Wallonie qui s'appelle Tous Vélo Actifs. Donc officiellement, il y a une trentaine d'entreprises en Wallonie qui se sont lancées dans une démarche pour mettre leurs employés à vélo. Maintenant, si l'urbanisme ne suit pas, bah, la démarche est vraiment à faire. C'est un peu un feu de paille. Alors, entre autres questions qu'on pose parfois, l'urbanisme vélo, oui, mais de toute façon, ce n'est pas dans notre culture. Hein. Le vélo, c'est dans la culture des Hollandais, mais pas nous. En Wallonie, on n'a jamais eu de culture vélo. Alors, quand on regarde effectivement ce qui est fait comme aménagement urbain aux Pays-Bas, on voit effectivement des rues qui sont relativement aménagées. D'abord pour les piétons, les vélos, les transports en commun parfois, et puis en dernier lieu pour la voiture. Et dans celle-là, il n'en reste plus énormément. Et donc voilà, ils ont dit, bah, les Pays-Bas, c'est normal, ils sont nés avec un vélo entre les jambes, tout ça coule de source. Bah, pas tellement quand même, quand on regarde l'histoire des Pays-Bas, c'est la même rue dans les années 70. Pour la culture vélo dans les années 70. Elle existait peut-être à l'époque, mais en tout cas, elle n'est pas très visible dans les aménagements urbains. Et à l'inverse, je pourrais vous montrer des photos en Wallonie où on a une école aujourd'hui et une école il y a 50 ans, et voir un parking vélo rempli dans la cour de l'école. Donc la culture, c'est quelque part un alibi souvent pour ne rien faire, parce que la culture, ça change, la culture évolue dans un sens positif ou négatif. Alors l'urbanisme vélo n'est pas l'urbanisme voiture, et ça on a parfois du mal à l'expliquer, c'est pas la même chose, un vélo n'est pas une voiture, donc souvent on nous met sur la chaussée, on dit vous suivez le flux, vous observez les mêmes règles du code de la route, et c'est bon, voilà, vous vous déplacez exactement comme une voiture, mais non, on ne se déplace pas comme une voiture. Un exemple, voici une commune fictive, un quartier, ici on voit le réseau vier, on voit les routes qui servent à collecter le trafic, on voit les petites routes qui servent à relier, à vraiment accéder au logement. Donc ça, c'est un réseau d'un quartier. Or, ceci, c'est ce qui est accessible à pied et en voiture. Donc, on a pensé, effectivement, que la voiture pouvait aller dans tout, sur toutes les voiries. On a fait des trottoirs partout. Donc ça, c'est la façon dont on a abordé le problème des déplacements à pied et à vélo. Et puis, Voilà, ça c'est le réseau cyclable auquel on a pensé, pas trop bien pensé. Là, on voit que c'est des morceaux, des morceaux qui conduisent toujours quelque part, des morceaux fragmentés, c'est plein de coupures. Et on se dit parfois, sans doute que la personne qui se déplace à vélo n'est pas une personne comme les autres, elle n'a pas besoin d'aller partout. L'usager à vélo ne va que dans une seule direction et encore pas jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'est souvent dans les aménageurs de voirie, on nous dit, mais on ne va pas faire de piste cyclable, là vous avez un Ravel à 2 km. C'est très bien d'avoir le Ravel à 2 km, mais ça n'aide pas à sortir de chez soi, ni à aller à l'école, ni à aller nécessairement à la boulangerie du coin. Et donc dans l'idéal, l'urbanisme vélo devrait assurer un accès, l'accessibilité à tous les commerces, à toutes les entreprises, à toutes les maisons. Maintenant, la forme est à déterminer, on ne dit pas qu'il faut faire des pistes cyclables partout, hein, mais en tout cas, l'accessibilité doit être pensée à vélo comme elle est pensée à pied et en voiture. Alors, une petite histoire de l'accessibilité, comme Boris l'a rappelé, relativement, il y a au 19e siècle, on pouvait aller quasiment partout à cheval et à pied. Puis le vélo s'est rajouté au 19e siècle, il pouvait relativement aller partout aussi. On avait un réseau de transport en commun qui s'est développé, qui était assez riche. On pouvait aller dans les campagnes avec les vicinaux, donc on avait une assez grande accessibilité en transport en commun. La voiture est apparue. Au départ, elle ne servait pas à aller très loin. On l'utilisait essentiellement pour se déplacer autour de chez soi. Les grands déplacements, d'ailleurs, à l'époque, étaient faits en train. On ne partait pas en voiture très très loin en Europe. On faisait essentiellement des déplacements en voiture locaux. Et puis, dans les années 50, là, c'est le début de la Nakba, le cataclysme, la fin de l'accessibilité à pied et à vélo. On a commencé à faire des autoroutes, des routes des pénétrantes urbaines. Le but était d'arriver à la grande place de Bruxelles en voiture, en ligne droite, et de pouvoir s'y garer. C'était à peu près ça la philosophie de l'époque. Et alors, on avait les transports en commun qui ont commencé à faire un parcours qui ont été coupés. On a coupé des lignes, on a coupé beaucoup de services, donc du coup, on essaie de devenir plus compliqué. Les piétons se sont retrouvés avec des coupures urbaines, des escaliers, des détours à faire, parce que les grands projets immobiliers créaient des coupures. Les grandes pénétrantes urbaines aussi, les voies de chemin de fer, on a supprimé les passages à niveau, créé des coupures aussi. Et à vélo, c'est exactement comme dans l'image précédente. Et donc, si on veut revenir un peu à un quartier durable où la mobilité est d'abord à pied et à vélo, mais il faut restaurer en fait ces accès directs à pied et à vélo, une certaine desserte en transport en commun et des déplacements en voiture qui sont possibles, mais pas le plus facile. Exactement comme Boris expliquait, il faut parfois ressortir du quartier en voiture pour aller de l'autre côté. Alors, urbanisme vélo et nouveau quartier, donc je vais vous montrer quelques exemples. Voici un peu le quartier dont rêvent les piétons et les vélos. Donc voilà, c'est un quartier aux Pays-Bas, ça existe. Déjà pas une utopie puisque ça existe. Et alors on se demande toujours pourquoi ce genre d'urbanisme n'est jamais à l'ordre du jour dans les quartiers, les projets de quartiers qu'on voit. Alors est-ce que la réglementation wallonne empêche la création de tels quartiers en Wallonie? Est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires? Est-ce qu'il y a des schémas directeurs? Est-ce qu'il y a des plans d'affectation du sol? Est-ce qu'il faut faire des voiries de 6 mètres d'office? On ne sait pas très bien. Ou est-ce qu'il y a une frilosité des décideurs politiques? Ils disent que si je fais un quartier piéton, ben, ça ne va jamais marcher, et puis en plus les autres autour vont aller. Est-ce qu'il y a une frilosité des promoteurs qui disent si jamais je fais quelque chose comme ça, ça ne se vendra pas et je n'aurai personne et je vais rester avec mon nouveau lotissement sur les bras? On ne sait pas trop. En tout cas, malheureusement, ça n'est pas un urbanisme qui est à l'ordre du jour, en tout cas dans certains quartiers. Je ne dis pas qu'il faut le faire dans tous les quartiers, mais on pourrait au moins y penser dans certains quartiers. Alors, c'est l'avantage de l'urbanisme. L'urbanisme est aussi pour recréer la convivialité du lien social. On a déjà pas mal d'exemples. Plus il y a de trafic dans un quartier, plus les interactions sont faibles entre les gens du quartier. Et en fait, moins vous avez de trafic, plus les enfants pourront sortir librement, retrouver une autonomie, une liberté, plus les contacts se referont, plus le lien social se retisse à l'intérieur du quartier. Donc, ça n'a pas que des avantages en termes de mobilité douce, ça a aussi pas mal d'avantages en termes de société. Alors, ça, c'est un plan d'un quartier un peu piéton-vélo principalement. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à un quartier classique? Eh bien, en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que la contrainte qu'on a levée, c'est de ne pas avoir la voiture juste devant la porte. Simplement, elle est un peu plus loin. Voilà, il faut marcher un peu pour y accéder. On ne demande pas aux gens de vivre sans voiture, mais on demande simplement de reculer la place jusqu'où on arrive. Maintenant, la perméabilité est toujours assurée pour évidemment avoir une livraison importante. Il y a des barrières, on peut avoir des systèmes qui permettent quand même évidemment de livrer les marchandises, de construire, de faire des travaux, etc. Et voilà, mais simplement, la voiture n'est plus le mode d'accès jusqu'à la porte du domicile. Alors, ça c'est un peu les quartiers qu'on voit fleurir à l'étranger. Et alors on se demande pourquoi en Wallonie. En fait, on est même très très loin de ça. Ici, c'est un écoquartier à Cours-Saint-Étienne. Et alors, comme le disait le journal Le Soir, en fait, l'éco-quartier est en fait un parking digne de ce nom, qui se retrouve désormais au centre du premier quartier durable du Bramont-Wallon. Il y a des bus à proximité, des maisons passives, mais les liaisons sont rapides vers la E14, la nationale 4 et la nationale 25, la voiture a gagné. Donc voilà, parfois on a fait de très beaux quartiers avec des maisons passives, on a mis des panneaux solaires sur les toits et tout, et puis au niveau de la mobilité, on se retrouve avec une voirie comme ceci. Pour 5,40 m, ne faites pas attention aux chiffres, c'est le grec de Cours-Saint-Étienne qui a rajouté la largeur de la voirie. Mais simplement, quand on est dans un quartier comme ça, est-ce qu'on est invité à être piéton ou cycliste, ou est-ce qu'on est invité simplement à rentrer chez soi et à sortir de chez soi en voiture? Voilà, quand on voit l'urbanisme qui est proposé ici, c'est clairement la voiture qui reste clairement au centre du projet. Alors, dans des enjeux urbanistiques, ici, par exemple, c'est pas un éco-quartier, c'est un simple lotissement. Donc, on voit une photo avant-après. La photo de droite, en fait, ce qu'on a fait, c'est que dans les charges d'urbanisme, le lotisseur a dû faire un trottoir. Or, à cet endroit-là, il n'y a quasiment pas de piétons. Par contre, il y a des cyclistes. On n'a pas du tout pensé à en faire un cheminement cyclo-piéton. Ce qui fait que maintenant, le cycliste, soit il rentre sur le trottoir en infraction, soit il reste sur cette route que le SPE ne veut pas aménager parce qu'il n'y a pas la place pour faire une piste cyclable séparée. On ne veut pas réduire la taille des bancs ni le nombre. Donc voilà, on est coincé. On n'y a pas pensé. C'est un peu dommage. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme outil? Entre le rêve, évidemment, des quartiers modèles qu'on voit fleurir en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, dans une échelle réaliste? Alors, on propose, nous, quelques pistes. Ben voilà, un projet à l'EUS. Bon, c'est un projet, hein, donc le quartier n'est pas encore vraiment décidé à 100% ni sorti de terre. Mais on voit clairement qu'il y a deux réseaux. On a fait un accès en voiture, ici en orange, et on a déjà pensé quand même à faire un deuxième réseau à l'intérieur du même quartier, qui est cyclo-piéton. Alors, est-ce que le réseau cyclo-piéton est l'accès aux portes principales des maisons ou à l'arrière des maisons? Ça, je ne sais pas. C'est en cours des choix qui doivent être faits, mais au moins, on a déjà pensé à créer un réseau pour la mobilité douce à l'intérieur du quartier, tant qu'il est encore temps, parce qu'après, une fois qu'on l'a fait à Cours-Saint-Étienne, c'est trop tard. Ça, c'est une première piste. Une deuxième piste, c'est assurer la perméabilité cyclo-piétonne, comme Boris le signale, effectivement. C'est quand on a des cul-de-sacs. Ici, on a quasiment créé un cul-de-sac et on l'a rendu perméable aux piétons et aux vélos, en séparant bien les deux, pour qu'il y ait le moins de conflits possible entre les deux usages. C'est donc les fameuses impasses débouchantes. Et puis aussi, pour le vélo, ça c'est un truc qui n'existe que pour les vélos, c'est de pouvoir effectivement remonter un sens unique et pas être obligé de faire un détour énorme pour accéder à sa maison, par exemple. Le troisième outil, c'est la réduction de la vitesse. Donc, certains nouveaux quartiers sont en zone 30, mais ce n'est pas automatique. On se dit malheureusement, pourquoi pas, en fait, puisqu'on crée un nouveau quartier, pourquoi ne pas aller directement dans cette optique de réduction de la vitesse pour pouvoir... Parce que la réduction de la vitesse, c'est l'autre outil avec les aménagements pour pouvoir cohabiter en piétons, vélo et voiture sur une voirie. Alors, on peut aller plus loin encore, par exemple, avec cet outil-là. C'est la zone résidentielle, et c'est encore très peu utilisé aussi. Alors, la zone résidentielle, par rapport à la zone 30, mais en fait, la zone 30, la voiture reste centrale sur la voirie, elle doit juste rouler à 30 à l'heure ici. C'est le piéton qui est central, il peut être au milieu de la voirie, et c'est à la voiture à rouler lentement, 20 à l'heure, et à respecter le piéton qui se trouve. Et elle ne peut se garer que sur l'espace qui lui est clairement réservé, là où les places de parking sont dessinées. Et on a aussi un avantage avec cette zone résidentielle, c'est qu'elle demande beaucoup moins d'espace. Vous n'avez plus à faire deux bandes de voiries, plus deux bandes de parking, plus deux trottoirs, ce qui en général vous donne des voiries énormes, qui sont peu accueillantes de toute façon au final pour les piétons et les vélos. Et donc on a un gain d'espace, et en agençant bien l'espace, en cassant les lignes droites, en mettant les parkings, les obstacles, les pots de fleurs, tout ça, on peut vraiment arriver à créer des choses qui redonnent envie d'être sur la chaussée, d'être sur la voirie. Ça, c'est un exemple en Angleterre. Donc, on voit que les voitures sont clairement garées, mais que les enfants ont réinvesti les lieux. Ce qui n'est pas possible dans une voirie classique où on garde deux bandes de voitures, deux bandes de parking et des trottoirs. Alors, après, on a aussi la zone de rencontre. Ça, c'est la zone de rencontre. C'est réglementairement, c'est quasiment identique à la zone résidentielle. C'est toujours le même panneau, d'ailleurs. C'est un panneau avec des enfants qui jouaient à 20 à l'heure. Maintenant, la zone de rencontre est utilisée quand il y a une mixité de tronçons. On n'a pas que du logement. Ici, c'est la place de l'Ange à Namur. On a une mixité de commerce, de logement et de bureaux. Donc, du coup, effectivement, c'est un peu différent. Alors, ça, c'était la zone de rencontre au départ. Malheureusement, si vous repassez à Namur, maintenant, elle est envahie de voitures. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est envahie de voitures? C'est parce qu'on n'a pas osé pousser le concept jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a une petite bordure, ici, de 4 cm, qui est une bordure guide pour les aveugles. Les gens l'interprètent comme étant le bord du trottoir. Donc les piétons systématiquement se mettent sur la partie ici qui est surélevée. Les voitures interprètent ça comme un bord de trottoir, donc ils stationnent. Et donc finalement, en fait, la zone de rencontre ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas, cet espace de plein pied, on n'a pas dessiné les parkings, les éventuels parkings assez bien. On n'a pas cassé la ligne droite et donc on est resté dans quelque chose de très petit. Malheureusement, les zones de rencontre, il n'y en a pas beaucoup en Wallonie, et si on les fait comme ça, c'est clair que ça ne donne pas envie à d'autres communes d'essayer, parce que si ceci est un échec, ça ne marchera pas. Si on refait comme ça, ça ne marchera pas mieux ailleurs. Voilà, dernière chose, alors le stationnement vélo. Ce qui est bien dans le stationnement vélo, c'est de le prévoir dans les immeubles. Alors vous êtes des urbanistes sans doute, donc du coup, à Bruxelles, c'est obligatoire. Tout nouvel immeuble doit avoir un local vélo ou set multifonctionnel. Sur toute la France, c'est obligatoire, et en Wallonie, non. Parce qu'en fait, la région wallonne n'a rien de contraignant dans le code été, donc dans les règlements d'urbanisme régionaux, il n'y a rien de contraignant. Des indications, on donne des normes indicatives de parking vélo. Et alors, c'est aux communes, en fait, pour l'instant, faire le boulot. Alors, le font soit dans un règlement communal d'urbanisme, soit via les permis d'urbanisme. Elle l'impose au promoteur. En Amur, c'est systématiquement imposé en charge d'urbanisme au promoteur qui fait son projet d'immeuble, et on lui impose un local vélo multifonctionnel. Non, c'est dommage parce que voilà, il faut que la commune y pense, il faut tout le temps être derrière les communes pour qu'elles imposent systématiquement sur chaque dossier ces genres de choses. Mais le parking vélo, c'est vraiment indispensable. Si la personne ne sait pas stationner son vélo, déjà c'est mal parti. Si elle le laisse dans la rue, elle va se le faire voler, elle n'en aura pas deux. Donc du coup, c'est un vrai frein à la mobilité. Et alors à Bruxelles, ça oblige par exemple à installer un peu partout des box vélo comme vous voyez en dessous à droite, parce que les immeubles n'ont pas été prévus avec des parkings vélo, et donc on a ça sur la voirie. C'est pas très beau, ça prend plein d'espace, ça pose des problèmes. Est-ce qu'on doit remplir les rues à Bruxelles avec ce genre de choses? Déjà, les automobilistes n'aiment pas parce qu'on prend en général une place de parking voiture pour le faire. Et c'est pas du tout nous ce qu'on souhaite non plus. On voudrait bien que ce soit fait en amont, directement dans la construction. Et alors il y a des normes, et c'est clair qu'un espace vélo par le plan c'est insuffisant. Comme ça se fait en Suisse, c'est un espace vélo par chambre. Si vous avez trois chambres en dans un appartement, vous avez vraisemblablement trois personnes dedans, au moins. Et donc, du coup, logiquement, si c'est une famille, ils ont probablement trois vélos. Et donc, du coup, il ne faut pas penser juste au niveau un logement égale une place de vélo. Et alors, soyons un peu encore un peu plus à la pointe dans le sujet. Ce système d'immeuble à Vienne, où il est carrément, où les couloirs ont été élargis et mis en charge aussi, pour pouvoir carrément stationner son vélo le long du mur de son appartement. Ce qui permet effectivement d'avoir de plein pied un accès vélo depuis chez soi. Et que ce n'est pas uniquement celui qui est au rez-de-chaussée qui a l'accès de plein pied, mais il est possible à tous les étages. Surtout quand vous avez des choses comme ça, vous transportez des courses, vous avez des enfants, une remorque et tout ça, c'est que chaque fois vous devez redescendre les courses à pied, à la main, tout ça. Donc voilà, je pense que je suis à 18 minutes, donc j'ai un petit peu dépassé mon temps de parole. Voilà, si vous avez une question pour le vélo. Et sinon, avec Boris, on peut revenir tous les deux devant vous et parler du cyclo-piéton dans les quartiers.